Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Save big on your next landscaping project now at Menards. We're your destination for concrete landscaping blocks. We have the largest in-stock selection ready to take home today. Plus, get free estimates fast using our landscape design program in-store or on Menards.com. Save big on all landscape blocks at Menards. America's number one home improvement retailer for customer satisfaction according to J.D. Power. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards.
Save big money at Menards.
Quatrième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, quatrième section. Et il montrait une de ces boutiques dont la négligence fait tache, au milieu des éblouissants magasins modernes. C'était une boutique à devanture peinte, en 1820, et qu'une faillite avait sans doute laissé au propriétaire de la maison dans un état douteux. La couleur avait disparu sous une double couche imprimée par l'usage et grassement épaissie par la poussière. Les vitres étaient sales, le bec de canne tournait de lui-même, comme dans tous les endroits d'où l'on sort encore plus promptement qu'on y est entré. « Que dites-vous de ceci? N'est-ce pas la cousine Germaine de la mort ?» dit le dessinateur à l'oreille de Gazonal. En lui montrant au comptoir une terrible compagnonne. « Eh bien, elle se nomme Madame Nourrisson. »« Madame, combien cette guipure ?» demanda le fabricant qui voulait lutter de verve avec les deux artistes. « Pour vous qui venez de loin, monsieur, ce ne sera que 100 écus, répondit-elle. En remarquant une cabriole particulière aux méridionaux, elle ajouta d'un air pénétré « « Cela vient de la pauvre princesse de Lamballe. »« Comment? Si près du château ?» s'écria Bixiou. « Monsieur, il n'y croit pas ?» répondit-elle. « Madame, nous ne venons pas pour acheter, » dit bravement Bixiou. « Je le vois bien, monsieur, » répliqua Madame Nourrisson. « Nous avons plusieurs choses à vendre, » dit l'illustre caricaturiste en continuant. « Je demeure rue Richelieu, 112, au 6e. » « Si vous vouliez y passer dans un moment, vous pourriez faire un fameux marché. »« Monsieur désire peut-être quelques zones de mousseline bien portées ?» demanda-t-elle en souriant. « Non, il s'agit d'une robe de mariage, » répondit gravement Léon de Laura. Un quart d'heure après, Madame Nourrisson vint en effet chez Bixiou qui, pour finir cette plaisanterie, avait emmené chez lui Léon et Gazonal. Madame Nourrisson les trouva sérieux comme des auteurs, dont la collaboration n'obtient pas tout le succès qu'elle mérite. « Madame, lui dit l'intrépide mystificateur, en lui montrant une paire de pantoufles de femme, voilà qui vient de l'impératrice Joséphine. » Il fallait bien rendre à Madame Nourrisson la monnaie de sa princesse de Lamballe. « Ça, fit-elle, c'est fait de cette année. Voyez cette marque en dessous. » « Ne devinez-vous pas que ces pantoufles sont une préface ?» répondit Léon. Quoiqu'elle soit ordinairement une conclusion de roman. Mon ami que voici, reprit Bixiou, en désignant le méridional, dans un immense intérêt de famille, voudrait savoir si une jeune personne d'une bonne, d'une riche maison et qu'il désire épouser, a fait une faute. Combien monsieur donnera-t-il? Demanda-t-elle en regardant Gazonal, que rien n'étonnait plus. 100 francs, répondit le fabricant. « Merci, » dit-elle en grimaçant un refus à désespérer un macaque. « Que voulez-vous donc, ma petite Madame Nourrisson ?» demanda Bixiou, qui la prit par la taille. « D'abord, mes chers messieurs, depuis que je travaille, je n'ai jamais vu personne, ni homme ni femme, marchant dans le bonheur. Et puis, tenez, vous êtes 3 farceurs, » reprit-elle, en laissant venir un sourire sur ses lèvres froides et le renforçant d'un regard glacé par une défiance de chatte. « S'il ne s'agit pas de votre bonheur, il est question de votre fortune. Et à la hauteur où vous êtes logé, l'on marchande encore moins une dot. « Voyons, dit-elle, en prenant un air doucereux, de quoi s'agit-il, mes agneaux ?»« De la maison Beugnier et compagnie, répondit Bixiou, bien aise de savoir à quoi s'en tenir sur une personne qui l'intéressait. « Oh, pour ça, reprit-elle, un louis c'est assez. « Et comment ?»« J'ai tous les bijoux de la mère, et de 3 en 3 mois, elle est dans ses petits souliers. Allez, elle est bien embarrassée de me trouver les intérêts de ce que je lui ai prêté. Vous voulez vous marier par là ? Je barre, dit-elle. « Donnez-moi 40 francs, et je jaserai pour plus de 100 écus. » Gazonal fit voir une pièce de 40 francs, et Madame Nourrisson donna des détails effrayants sur la misère secrète de quelques femmes dites « comme il faut ». La revendeuse, mise en gaieté par la conversation, se dessina. Sans trahir aucun nom, aucun secret, elle fit frissonner les deux artistes en leur démontrant qu'ils se rencontraient peu de bonheur, à Paris, qui ne fussent assis sur la base vacillante de l'emprunt. Elle possédait dans ses tiroirs des feux grand-mères, des enfants vivants, des défunts maris, des petites filles mortes, souvenirs entourés d'or et de brillants. Elle apprenait d'effrayantes histoires en faisant causer ses pratiques les unes sur les autres, en leur arrachant leurs secrets dans les moments de passion, de brouille, de colère, et dans ces préparations anodines que veut un emprunt pour se conclure. « Comment avez-vous été amené à faire ce commerce ?» demanda Gazonal. « Pour mon fils, dit-elle avec naïveté. Presque toujours les revendeuses à la toilette justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. Madame Nourrisson se posa comme ayant perdu plusieurs prétendus, 3 filles qui avaient très mal tourné, toutes ses illusions, enfin. Elle montra, comme étant celle de ses plus belles valeurs, des reconnaissances du monde-piété pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gênée aux 30 prochains. « On la volait beaucoup, disait-elle. » Les deux artistes se regardèrent en entendant ce mot un peu trop vif. « Tenez, mes enfants, je vais vous montrer comment l'on nous refait. Il ne s'agit pas de moi, mais de ma voisine d'en face, Madame Mahuchet, la cordonnière pour femme. J'avais prêté de l'argent à une comtesse, une femme qui a trop de passion eu égard à ses revenus. Ça se carre sur de beaux meubles, dans un magnifique appartement. Ça reçoit, ça fait, comme nous disons, un esbrouve du diable. Elle doit donc 300 francs à sa cordonnière. Et ça donnait un dîner, une soirée, pas plus tard qu'avant-hier. La cordonnière qui apprend cela par la cuisinière vient me voir. Nous nous montons la tête, elle veut faire une esclandre. Moi je lui dis, « Ma petite mère Mahuchet, à quoi cela sert-il ? À se faire haïr ? Il vaut mieux obtenir de bons gages. À râleuse, râleuse et demie. Et l'on épargne sa bile. Elle veut y aller, me demande de la soutenir, nous y allons. Madame n'y est pas ? Connue. « Nous l'attendrons, dit la mère Mahuchet, dussé-je rester là jusqu'à minuit. » Et nous nous campons dans l'antichambre et nous causons. « Ah, voilà les portes qui vont, qui viennent, des petits pas, des petites voix. Moi, cela me faisait de la peine. Le monde arrivait pour dîner. Vous jugez de la tournure que ça prenait. La comtesse envoie sa femme de chambre pour amadouer la Mahuchet. Vous serez payé demain. Enfin, toute l'école ?» Rien ne prend. La comtesse, mise comme un dimanche, arrive dans la salle à manger. Ma Mahuchet, qui l'entend, ouvre la porte et se présente. Dame, en voyant une table étincelant d'argenterie, les réchauds, les chandeliers, tout brillant comme un écrin, elle part comme du sodavâtre et lance sa fusée. Quand on dépense l'argent des autres, on devrait être sobre, ne pas donner à dîner. Être comtesse et devoir 100 écus à une malheureuse cordonnière qui a 7 enfants, vous pouvez deviner tout ce qu'elle débagoule, cette femme qui a peu d'éducation. Sur un mot d'excuse, pas de fond, de la comtesse, ma Mahuchet s'écrie « Eh, madame, voilà de l'argenterie. Engagez vos couverts et payez-moi. Prenez-les vous-même, dit la comtesse en ramassant 6 couverts et les lui fourrant dans la main. Nous dégringolons les escaliers. Ah, bah, comme un succès. Non, dans la rue, les larmes sont venues à la Mahuchet, car elle est bonne femme. » Elle a rapporté les couverts en faisant des excuses. Elle avait compris la misère de cette comtesse. Ils étaient en Maïchor. Elle est restée à découvert, dit Léon de Lora, chez qui l'ancien mistigris reparaissait souvent. « Ah, mon cher monsieur, dit Madame Nourrisson, éclairée par ce calembour, Vous êtes un artiste, vous faites des pièces de théâtre, vous demeurez rue du Helder, et vous êtes resté avec Madame Antonia. Vous avez des tics que je connais. Allons, vous voulez avoir quelque rareté dans le grand genre? Carabine ou mousqueton, Malaga ou génicadine? Malaga, carabine, c'est nous qui les avons faites, ce qu'elles sont, s'écria Léon de Lora. Je vous jure, ma chère madame Nourrisson, que nous voulions uniquement avoir le plaisir de faire votre connaissance et que nous souhaitons des renseignements sur vos antécédents, savoir par quelle pente vous avez glissé dans votre métier, dit Bixiou. J'étais femme de confiance chez un maréchal de France, le prince d'Isambourg, dit-elle en prenant une pause de Dorine. Un matin, il vint une des comtesses les plus huppées de la cour impériale. Elle veut parler au maréchal, et secrètement. Moi, je me mets aussitôt en mesure d'écouter. Ma femme fond en larmes, elle confie à ce benêt de maréchal, le prince d'Isambourg, ce condé de la République, un benêt, que son mari, qui servait en Espagne, a laissé sans un billet de 1000 francs, que si elle n'en a pas un ou deux à l'instant, ses enfants sont sans pain. Elle n'a pas à manger demain. Mon maréchal, assez donnant dans ce temps-là, tire 2 billets de 1000 francs de son secrétaire. Je regarde cette belle comtesse dans l'escalier sans qu'elle pût me voir. Elle riait d'un contentement si peu maternel que je me glisse jusque sous le péristyle, et je lui entends dire tout bas à son chasseur « Chez le roi !» J'y cours. Ma mère de famille entre chez ce fameux marchand rue Richelieu, vous savez. Elle se commande et paye une robe de 1500 francs. On soldait alors une robe en la commandant. Le surlendemain, elle pouvait paraître à un bal d'ambassadeur, harnachée comme une femme doit l'être pour plaire à la fois à tout le monde et à quelqu'un. De ce jour-là, je me suis dit, j'ai un état. Quand je ne serai plus jeune, je prêterai sur leur nippe aux grandes dames, car la passion ne calcule pas et paye aveuglément. Si c'est des sujets de votre ville que vous cherchez, je vous en vendrai. » Elle partit sur cette tirade où chacune des phrases de sa vie antérieure avait déteint, en laissant Gazonal autant épouvanté de cette confidence que par 5 dents jaunes qu'elle avait montrées en essayant de sourire. « Et qu'allons-nous faire ?» demanda Gazonal. « Des billets, » dit Bixiou qui siffla son portier, « car j'ai besoin d'argent et je vous ferai voir à quoi servent les portiers. Vous croyez qu'ils servent à tirer le cordon ?» Ils servent à tirer d'embarras les gens sans aveu, comme moi, les artistes qu'ils prennent sous leur protection. » Gazonal ouvrit des yeux de manière à faire comprendre ce mot, un œil de bœuf. Un homme entre deux âges, moitié grison, moitié garçon de bureau, mais plus huileux et plus huilé, la chevelure grasse, l'abdomen grassouillé, le teint blafard et humide comme celui d'une supérieure de couvent, chaussé de chaussons de lisière, vêtu de drap bleu et d'un pantalon grisâtre, se montra soudain. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit-il d'un air qui tenait du protecteur et du subordonné tout ensemble. « Ravenouillet. » « Il se nomme Ravenouillet, » dit Bixiou qui se tourna vers Gazonal. « As-tu notre carnet d'échéance ?» Ravenouillet tira de sa poche de côté le livret le plus gluant que jamais Gazonal eût vu. « Inscrit dessus à 3 mois ces 2 billets que tu vas me signer. » Et Bixiou présenta 2 effets de commerce, tout préparés, faits à son ordre par Ravenouillet, que Ravenouillet signa sur le champ et inscrivit sur le livret graisseux où sa femme notait les dettes des locataires. « Merci, Ravenouillet, » dit Bixiou. « Tiens, voici une loge pour le vaudeville. »« Oh, ma fille s'amusera bien ce soir, » dit Ravenouillet en s'en allant. « Nous sommes ici 71 locataires, » dit Bixiou. La moyenne de ce qu'on doit à Ravenouillet est de 6 000 francs par mois, 18 000 francs par trimestre, en avance et port de lettres, sans compter les loyers dus. C'est la Providence, à 30% que nous lui donnons sans qu'il ait jamais rien demandé. « Oh, Paris, Paris !» s'écria Gazonal. En nous en allant, dit Bixiou qui venait d'endosser les effets, « car je vous mène, cousin Gazonal, voir encore un comédien qui va jouer gratis une charmante scène. »« Où ?» dit Léon. « Chez un usurier. » En nous en allant donc, je vous raconterai le début de l'ami Ravenouillet à Paris. En passant devant la loge, Gazonal aperçut mademoiselle Lucienne Ravenouillet, qui tenait à la main un solfège. Elle était élève du conservatoire, Le père lisait un journal et Madame Ravenouillet tenait à la main des lettres à monter pour les locataires. « Merci, monsieur Bixiou, » dit la petite. « Ce n'est pas un rat, » dit Léon à son cousin, « c'est une larve de cigale. » « Il paraît qu'on obtient, » dit Gazonal, « l'amitié de la loge comme celle de tout le monde, par les loges. » « Se forme-t-il dans notre société ?» s'écria Léon, charmé du calembour. « Voici l'histoire de Ravenouillet, » reprit Bixiou, quand les trois amis se trouvèrent sur le boulevard. « En 1831, Massol, votre conseiller d'État, était un avocat journaliste qui ne voulait alors être que garde des Sceaux. Il daignait laisser Louis-Philippe sur le trône. Mais il faut lui pardonner son ambition. Il est de Carcassonne. Un matin, il voit entrer un jeune pays qui lui dit « Vous me connaissez bien, Mossou Massol. Je suis le petit de votre voisin l'épicier. J'arrive de là-bas, car l'on nous a dit qu'en venant ici, chacun trouvait à se placer. » En entendant ces paroles, Massol fut pris d'un frisson et se dit en lui-même que, s'il avait le malheur d'obliger ce compatriote, à lui d'ailleurs parfaitement inconnu, tout le département allait tomber chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de mouvements de sonnettes, 11 cordons, ses tapis, que son unique valet le quitterait, qu'il aurait des difficultés avec son propriétaire relativement à l'escalier, et que les locataires se plaindraient de l'odeur d'ail et de diligence répandue dans la maison. Donc, il regarda le solliciteur comme un boucher regarde un mouton avant de l'égorger. Mais, quoique le pays eût reçu ce coup d'œil ou ce coup de poignard, il reprit ainsi, nous dit Massol. J'ai de l'ambition tout comme un autre, et je ne veux retourner au pays que riche, si j'y retourne, car Paris est l'antichambre du paradis. On dit que vous, qui écrivez dans les journaux, vous faites ici la pluie et le beau temps, qu'il vous suffit de demander pour obtenir n'importe quoi dans le gouvernement. Mais si j'ai des facultés, comme nous tous, je me connais, je n'ai pas d'instruction. Si j'ai des moyens, je ne sais pas écrire, et c'est un malheur, car j'ai des idées. Je ne pense donc pas à vous faire concurrence. Je me juge, je ne réussirai point. Mais comme vous pouvez tout, et que nous sommes presque frères, ayant joué pendant notre enfance ensemble, je compte que vous me lancerez et que vous me protégerez. Oh, il le faut. Je veux une place qui convienne à mes moyens, à ce que je suis et où je puisse faire fortune. » Massol allait brutalement mettre son pays à la porte en lui jetant au nez quelques phrases brutales, lorsque le pays conclut ainsi. « Je ne demande donc pas à entrer dans l'administration où l'on va comme des tortues, que votre cousin est resté contrôleur ambulant depuis 20 ans. Non, je voudrais seulement débuter. Au théâtre ?» lui dit Massol, heureux de ce dénouement. Non, j'ai bien du geste, de la figure, de la mémoire, mais il y a trop de tirage. Je voudrais débuter dans la carrière des portiers. » Massol resta grave et lui dit, « Il y aura bien plus de tirage, mais du moins vous verrez les loges pleines. » Et il lui fit obtenir, comme dit Ravenouillet, son premier cordon. « Je suis le premier, » dit Léon, « qui me soit préoccupé du genre portier. » Il y a des fripons de moralité, des batteleurs de vanité, des sycophantes modernes, des septembriseurs caparaçonnés de gravité, des inventeurs de questions palpitantes d'actualité, qui prêchent l'émancipation des nègres, l'amélioration des petits voleurs, la bienfaisance envers les forçats libérés, et qui laissent leurs portiers dans un état pire que celui des Irlandais, dans des prisons plus affreuses que des cabanons, et qui leur donne pour vivre moins d'argent par an que l'État n'en donne pour un forçat. Je n'ai fait qu'une bonne action dans ma vie. C'est la loge de mon portier. Si, reprit Bixiou, un homme ayant bâti de grandes cages, divisées en 1000 compartiments comme les alvéoles d'une ruche ou les loges d'une ménagerie, et destiné à recevoir des créatures de tout genre et de toute industrie, si cet animal à figure de propriétaire venait consulter un savant et lui disait « Je veux un individu du genre Bimane, qui puisse vivre dans une sentine pleine de vieux souliers, empestiférée par des haillons et de 10 pieds carrés. Je veux qu'il y vive toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y soit heureux, qu'il ait des enfants jolis comme des amours, qu'il y travaille, qu'il y fasse la cuisine, qu'il s'y promène, qu'il y cultive des fleurs, qu'il y chante, et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y voit pas clair et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se passe au dehors, assurément, le savant ne pourrait pas inventer le portier. Il fallait Paris pour le créer. Ou, si vous voulez, le diable. L'industrie parisienne est allée plus loin dans l'impossible, dit Gazonal. Il y a les ouvriers. Vous ne connaissez pas tous les produits de l'industrie, vous qui les exposez. Notre industrie combat contre l'industrie du continent à coups de malheur, comme sous l'Empire Napoléon combattait l'Europe à coups de régiment. Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, dit Bixiou. Une des plus grandes fautes que commettent les gens qui peignent nos mœurs est de répéter de vieux portraits. Aujourd'hui, chaque État s'est renouvelé. Les épiciers deviennent pairs de France, les artistes capitalisent, les vaudevillistes ont des rentes. Si quelques rares figures restent ce qu'elles étaient jadis, en général, les professions n'ont plus leur costume spécial, ni leurs anciennes mœurs. Si nous avons eu Gobseck, Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les derniers des Romains, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier bon enfant, petit maître qui hante les coulisses, les lorettes et qui se promène dans un petit coupé bas à un cheval. Observez bien, mon homme, ami Gazonal, vous allez voir la comédie de l'argent, l'homme froid qui ne veut rien donner, l'homme chaud qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le surtout. Et tous trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une maison de très belle apparence, située sur le boulevard des Italiens, et s'y trouvèrent environnés de toutes les élégances alors à la mode. Un jeune homme d'environ 28 ans vint à leur rencontre d'un air presque riant, car il vit Léon de Lora le premier. Vauvinet donna la poignée de main, en apparence la plus amicale, à Bixiou, salua d'un air froid Gazonal, et les fit entrer dans un cabinet, où tous les goûts du bourgeois se devinaient sous l'apparence artistique de l'ameublement, et malgré les statuettes à la mode, les 1000 petites choses appropriées à nos petits appartements par l'art moderne qui s'est fait aussi petit que le consommateur. Vauvinet était mis, comme les jeunes gens qui se livrent aux affaires, avec une recherche excessive qui, pour beaucoup d'entre eux, est une espèce de prospectus. « Je viens te chercher de la monnaie, » dit en riant Bixiou qui présenta ses effets. Vauvinet prit un air sérieux dont sourit Gazonal, tant il y eut de différence entre le visage riant et le visage de l'escompteur mis en demeure. « Mon cher, » dit Vauvinet en regardant Bixiou, « ce serait avec le plus grand plaisir que je t'obligerais, mais je n'ai pas d'argent en ce moment. »« Ah, bah !» Oui, j'ai tout donné, tu sais à qui? Ce pauvre Lousteau s'est associé pour la direction d'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très protégé par le ministère, Ridal. Et il leur a fallu 30 000 francs hier. Je suis à sec, et tellement à sec que je vais envoyer chercher de l'argent chez Cérizet pour payer 100 louis perdus au Lansquenet ce matin chez Jenny Cadine. Il faut que vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, dit Léon de Lora. Car il est bien mauvaise langue quand il se trouve à la côte. Mais, reprit Bixiou, je ne puis dire que du bien de Vauvinet. Il est plein de bien. Mon cher, reprit Vauvinet, il me serait impossible, eussé-je de l'argent, de t'escompter, fût-ce à 50% des billets souscrits par ton portier. Le ravenouillé n'est pas demandé. Ce n'est pas là du Rothschild. Je te préviens que cette valeur est très éventée. Il te faut inventer une autre maison. Cherche un oncle. Car un ami qui nous signe des billets, ça ne se voit plus. Le positif du siècle fait d'horribles progrès. J'ai, dit Bixiou qui désigna le cousin de Léon, j'ai monsieur, un de nos plus illustres fabricants de draps du Midi, nommé Gazonal. Il n'est pas très bien coiffé, reprit-il en regardant la chevelure ébouriffée et luxuriante du provincial, mais je vais le mener chez Marius, qui va lui ôter cette apparence de caniche si nuisible à sa considération et à la nôtre. Je ne crois pas aux valeurs du Midi, soit dit sans offenser monsieur, répondit Vauvinet, qui rendait Gazonal si content que Gazonal ne se fâcha point de cette insolence. Gazonal, en homme excessivement pénétrant, crut que le peintre et Bixiou voulaient, pour lui apprendre à connaître Paris, lui faire payer 1 000 francs le déjeuner du café de Paris, car le fils du Roussillon n'avait pas encore quitté cette prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l'homme de province. « Comment veux-tu que j'aie des affaires à 250 lieues de Paris, dans les Pyrénées ?» ajouta Vauvinet. « C'est donc dit, » reprit Bixiou. « J'ai 20 francs chez moi, » dit le jeune escompteur. « J'en suis fâché pour toi, » répliqua le mystificateur. « Je croyais valoir 1 000 francs, » dit-il sèchement. « Tu vaux 100 000 francs, » reprit Vauvinet. « Quelquefois même, tu es impayable, mais je suis à sec. »« Eh bien, » répondit Bixiou, « n'en parlons plus. » Je t'avais ménagé pour ce soir chez Carabine la meilleure affaire que tu pouvais souhaiter. Tu sais... » Vauvinet cligna d'un œil en regardant Bixiou. Grimace que font les maquignons pour se dire entre eux « Ne joutons pas de finesse. » « Tu ne te souviens plus de m'avoir pris par la taille, absolument comme une jolie femme, en me caressant du regard et de la parole, » reprit Bixiou, « quand tu me disais « Je ferai tout pour toi. Si tu peux me procurer... au père des actions du chemin de fer que soumissionnent Dutillet et Nucingen, eh bien, mon cher, Maxime et Nucingen viennent chez Carabine, qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes politiques. Tu perds là, mon vieux, une belle occasion. Allons, adieu, carotteur. » Et Bixiou se leva, laissant Vauvinet assez froid en apparence, mais réellement mécontent comme un homme qui reconnaît avoir fait une sottise. « Mon cher, un instant, » dit l'escompteur. Si je n'ai pas d'argent, j'ai du crédit. Si tes billets ne valent rien, je puis les garder et te donner en échange des valeurs de portefeuille. Enfin, nous pouvons nous entendre pour les actions du chemin de fer. Nous partagerions, dans une certaine proportion, les bénéfices de cette opération, et je te ferai alors une remise à valoir sur les bénéfices. « Non, non, » répondit Bixiou, « j'ai besoin d'argent. Il faut que je fasse mon ravenouiller. »« Ravenouiller, d'ailleurs très bon, » dit Vauvinet. Il place à la caisse d'épargne. Il est excellent. Il est meilleur que toi, ajouta Léon, car il ne stipendie pas de lorette, il n'a pas de loyer, il ne se lance pas dans les spéculations en craignant tout de la hausse ou de la baisse. Vous croyez rire, grand homme, reprit Vauvinet, devenu jovial et caressant. Vous avez mis en élixir la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Allons, Gubetta, mon vieux complice, dit Vauvinet en prenant Bixiou par la taille. « Il te faut de l'argent? Eh bien, je puis bien emprunter 3 000 francs à mon ami Cérizet, au lieu de 2 000. Et soyons amis, Sinna. Donne-moi tes 2 feuilles de chou colossales. Si je t'ai refusé, c'est qu'il est bien dur à un homme qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en passant ses valeurs à la banque, de garder ton ravenouillé dans le tiroir de son bureau. C'est dur, c'est très dur. »« Et que prends-tu d'escompte ?» dit Bixiou. « Presque rien, » reprit Vauvinet. Cela te coûtera, à 3 mois, 50 malheureux francs. Comme disait jadis Émile Blondet, tu seras mon bienfaiteur, répondit Bixiou. 20% intérêt en dedans, dit Gazonal à l'oreille de Bixiou, qui lui répliqua par un grand coup de coude dans l'œsophage. Tiens, dit Vauvinet en ouvrant le tiroir de son bureau, j'aperçois là mon bon, un vieux billet de 500 qui s'est collé contre la bande, et je ne me savais pas si riche, car je te cherchais en effet à recevoir, fin prochain, de 450. Cérizet te le prendra sans grande diminution. Et voilà ta somme faite. Mais pas de farce, Bixiou. Hein, ce soir, j'irai chez Carabine, tu me jures. Est-ce que nous ne sommes pas ré-amis? Dit Bixiou, qui prit le billet de 500 francs et l'effet de 450. Je te donne ma parole d'honneur que tu verras ce soir du Tillet et bien des gens qui veulent faire leur chemin de fer chez Carabine. Vauvinet reconduisit les 3 amis jusque sur le palier en cajolant Bixiou. Bixiou resta sérieux jusque sur le pas de la porte. Il écoutait Gazonal qui tentait de l'éclairer sur cette opération et qui lui prouvait que si le compère de Vauvinet, ce Cérizet, lui prenait 20 francs d'escompte sur le billet de 450 francs, c'était de l'argent à 40% sur l'asphalte. Bixiou glaça Gazonal par le rire du mystificateur parisien, ce rire muet et froid, une sorte de bise labiale. L'adjudication du chemin sera positivement ajournée à la chambre, dit-il. Nous le savons d'hier par cette marcheuse à qui nous avons souri, et si je gagne ce soir 5 à 6 000 francs au lansquenet, qu'est-ce que 70 francs de perte pour avoir de quoi miser ? Le lansquenet est encore une des 1000 facettes de Paris, comme il est, reprit Léon. Aussi, cousin, comptons-nous te présenter chez une duchesse de la rue Saint-Georges, où tu verras l'aristocratie des Lorettes, et où tu peux gagner ton procès. Or, il est impossible de t'y montrer avec tes cheveux pyrénéens. Tu as l'air d'un hérisson. Nous allons te mener ici près, place de la Bourse, chez Marius, un autre de nos acteurs. Quel est ce nouvel acteur ? Fin de la 4e section. Cinquième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, 5e section. Voilà l'anecdote, répondit Bixiou. En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambition, vint à Paris et y leva boutique. Je me sers de votre argot. Cet homme de génie, il jouit de 24 000 francs de rente à Libourne, où il s'est retiré, comprit que ce nom vulgaire et ignoble n'atteindrait jamais à la célébrité. Monsieur de Parny, qu'il coiffait, lui donna le nom de Marius, infiniment supérieur aux prénoms d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms patronymiques attaqués du mal Cabot. Tous les successeurs de Cabot se sont appelés Marius. Le Marius actuel est Marius V. Il se nomme Mougin. Il en est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l'eau de Botteau, pour l'encre de la petite vertu. À Paris, un nom devient une propriété commerciale et finit par constituer une sorte de noblesse d'enseigne. Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la première école de coiffure du monde. « J'ai déjà vu, en traversant la France, dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où se lisent ces mots « un tel », élève de Marius. » Ces élèves doivent se laver les mains après chaque frisure faite, répondit Bixiou. Mais Marius ne les admet pas indifféremment. Ils doivent avoir la main jolie et ne pas être laids. Les plus remarquables, comme élocution, comme tournure, vont coiffer en ville. Ils reviennent très fatigués. Marius ne se déplace que pour les femmes titrées. Il a cabriolet et groom. Mais ce n'est après tout qu'un merlan, s'écria Gazonal indigné. Merlan ? Reprit Bixiou. Songez qu'il est capitaine dans la garde nationale et qu'il est décoré pour avoir sauté le premier dans une barricade en 1832. Prends garde, ce n'est ni un coiffeur, ni un perruquier. C'est un directeur de salon de coiffure, dit Léon, en montant un escalier à balustres en cristal, à rampe d'acajou, et dont les marches étaient couvertes d'un tapis somptueux. Ah ça, n'allez pas nous compromettre, dit Bixiou à Gazonal. Dans l'antichambre, vous allez trouver des laquais qui vous ôteront votre habit, votre chapeau pour les brosser, et qui vous accompagnent jusqu'à la porte d'un des salons de coiffure, pour l'ouvrir et la refermer. Il est utile de vous dire cela, mon ami Gazonal, ajouta finement Bixiou, car vous pourriez crier « au voleur !» Ces salons, dit Léon, sont trois boudoirs où le directeur a réuni toutes les inventions du luxe moderne. Aux fenêtres, des lambrequins, partout des jardinières, des divans moelleux où l'on peut attendre son tour en lisant les journaux, quand toutes les toilettes sont occupées. En entrant, tu pourrais tâter ton gousset et croire qu'on va te demander 5 francs. Mais il n'est extrait de toute espèce de poche que 10 sous pour une frisure et 20 sous pour une coiffure avec taille de cheveux. D'élégantes toilettes se mêlent aux jardinières et il en jaillit de l'eau par des robinets. Partout, des glaces énormes reproduisent les figures. Ainsi ne fait pas l'étonner. Quand le client, tel est le mot élégant substitué par Marius à l'ignoble mot de pratique, quand le client apparaît sur le seuil, Marius lui jette un coup d'œil et il est apprécié. Pour lui, vous êtes une tête plus ou moins susceptible de l'occuper. Pour Marius, il n'y a plus d'homme, il n'y a que des têtes. Nous allons vous faire entendre Marius sur tous les tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez imiter notre jeu. Aussitôt que Gazonal se montra, le coup d'œil de Marius lui fut favorable. Il s'écria « Régulus, à vous cette tête, rognez-la d'abord au petit ciseau. » Pardon, dit Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou, je désire être coiffé par monsieur Marius lui-même. Marius, très flatté de cette prétention, s'avança en laissant la tête qu'il tenait. « Je suis à vous. Je finis. Soyez sans inquiétude. Mon élève vous préparera, moi seul je déciderai de la coupe. » Marius, petit homme grêlé, les cheveux frisés comme ceux de Rubini, d'un noir de jais, et mis tout en noir, en manchette, le jabot de sa chemise orné d'un diamant, reconnut alors Bixiou, qu'il salua comme une puissance égale à la sienne. « C'est une tête ordinaire, dit-il à Léon, en désignant le monsieur qu'il était en train de coiffer. Un épicier, que voulez-vous ? Si l'on ne faisait que de l'art, on mourrait à Bicêtre, fou !» Et il retourna, par un geste inimitable à son client, après avoir dit à Régulus « Soigne monsieur, c'est évidemment un artiste. » « Un journaliste, dit Bixiou. » Sur ce mot, Marius donna deux ou trois coups de peigne à la tête ordinaire et se jeta sur Gazonal en prenant Régulus par le bras au moment où il allait faire jouer ses petits ciseaux. « Je me charge de monsieur. » « Voyez, monsieur, dit-il à l'épicier, reflétez-vous dans la grande glace, au cian ?» Le laquais entra et s'empara du client pour le vêtir. « Vous paierez à la caisse, monsieur, dit Marius, à la pratique stupéfaite qui déjà tirait sa bourse. « Est-ce bien utile, mon cher, de procéder à cette opération des petits ciseaux ?» dit Bixiou. « Aucune tête ne m'arrive que nettoyer, répondit l'illustre coiffeur. « Mais pour vous, je ferai celle de monsieur tout entière. » Mes élèves ébauchent, car je n'y tiendrai pas. Le mot de tout le monde est le vôtre. Être coiffé par Marius? Je ne puis donner que le fini. Dans quel journal travaille monsieur? À votre place, j'aurai trois ou quatre Marius, dit Gazonal. Ah, monsieur, je le vois, et feuilletoniste, dit Marius. Hélas, en coiffure où l'on paye de sa personne, c'est impossible. Pardon. Il quitta Gazonal pour aller surveiller Régulus qui préparait une tête nouvellement arrivée. Il fit, en frappant la langue contre le palais, un bruit désapprobatif qui peut se traduire par « Allons, bon Dieu, ça n'est pas assez carré. Votre coup de ciseau fait des hachures. Tenez, voilà. Régulus, il ne s'agit pas de tondre des caniches. C'est des hommes qui ont leur caractère, et si vous continuez à regarder le plafond au lieu de vous partager entre la glace et la face, « vous déshonorerez ma maison. »« Vous êtes sévère, monsieur Marius. Je leur dois les secrets de l'art. »« C'est donc un art ?» dit Gazonal. Marius, indigné, regarda Gazonal dans la glace et s'arrêta, le peigne d'une main, les ciseaux de l'autre. « Monsieur, vous en parlez comme un enfant. Et cependant, à l'accent, vous paraissez être du Midi, le pays des hommes de génie. »« Oui, je sais qu'il faut une sorte de goût, » réplique Gazonal. « Mais taisez-vous donc, monsieur, j'attendais mieux de vous. C'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un bon coiffeur, car on est ou l'on n'est pas coiffeur. Un coiffeur, c'est plus difficile à trouver que... qu'est-ce que je dirais bien... qu'un... je ne sais pas quoi... un ministre. Restez en place. Non, car on ne peut pas juger de la valeur d'un ministre. Les rues sont pleines de ministres. Un Paganini? Non, ce n'est pas assez. » Un coiffeur, monsieur, un homme qui devine votre âme et vos habitudes, afin de vous coiffer à votre physionomie, il lui faut ce qui constitue un philosophe. Et les femmes, donc? Tenez, les femmes nous apprécient, elles savent ce que nous valons. Nous valons la conquête qu'elles veulent faire le jour où elles se font coiffer pour remporter un triomphe. C'est-à-dire qu'un coiffeur, on ne sait pas ce que c'est. Tenez, moi qui vous parle, je suis à peu près ce qu'on peut trouver de... sans me vanter, on me connaît. Eh bien, non, je trouve qu'il doit y avoir mieux. L'exécution, voilà la chose. Ah, si les femmes me donnaient carte blanche, si je pouvais exécuter tout ce qui me vient d'idée, c'est que j'ai, voyez-vous, une imagination d'enfer. Mais les femmes ne s'y prêtent pas. Elles ont leurs plans, elles vous fourrent des coups de doigts ou de peigne quand vous êtes parti, dans nos délicieux édifices qui devraient être gravés et recueillis, car nos œuvres, monsieur, ne durent que quelques heures. Un grand coiffeur est, ce serait quelque chose comme Carême et Vestris, dans leur partie. Par ici la tête, là, s'il vous plaît, je fais les faces, bien. Notre profession est gâtée par des massacres qui ne comprennent ni leur époque ni leur art. Il y a des marchands de perruques ou d'essence à faire pousser les cheveux, ils ne voient que des flacons à vous vendre. Cela fait pitié. C'est du commerce. Ces misérables coupent les cheveux ou ils coiffent comme ils peuvent. Moi, quand je suis arrivé de Toulouse, ici, J'avais l'ambition de succéder au grand Marius, d'être un vrai Marius et d'illustrer le nom, à moi seul, plus que les quatre autres. Je me suis dit, vaincre ou mourir. Là, tenez-vous droit, je vais vous achever. C'est moi qui, le premier, ai fait de l'élégance. J'ai rendu mes salons l'objet de la curiosité. Je dédaigne l'annonce, et ce que coûte l'annonce, je le mettrai, monsieur, en bien-être, en agrément. L'année prochaine, j'aurai dans un petit salon un quatuor. On fera de la musique et de la meilleure. Oui, il faut charmer les ennuis de ceux que l'on coiffe. Je ne me dissimule pas les déplaisirs de la pratique. Regardez-vous. Se faire coiffer, c'est fatigant. Peut-être autant que de poser pour son portrait. Et monsieur sait peut-être que le fameux monsieur de Humboldt, j'ai su tirer parti du peu de cheveux que l'Amérique lui a laissé. La science a ce rapport avec le sauvage qu'elle scalpe très bien son homme. Cet illustre savant a dit qu'après la douleur d'aller se faire pendre, il y avait celle d'aller se faire peindre. Mais, d'après quelques femmes, je place celle de se faire coiffer avant celle de se faire peindre. Eh bien, monsieur, je veux qu'on vienne se faire coiffer par plaisir. Vous avez un épi qu'il faut dompter. Un juif m'avait proposé des cantatrices italiennes qui, dans les entr'actes, auraient épilé les jeunes gens de 40 ans. Mais elles se sont trouvées être des jeunes filles du conservatoire, des maîtresses de piano de la rue Montmartre. Vous voilà coiffé, monsieur, comme un homme de talent doit l'être. Ossian, dit-il à son laquais en livrée, brossez et reconduisez monsieur. À qui le tour ? Ajouta-t-il avec orgueil en regardant les personnes qui attendaient. Ne ris pas, Gazonal, dit Léon à son cousin en atteignant au bas de l'escalier, d'où son regard plongeait sur la place de la Bourse. J'aperçois là-bas un de nos grands hommes, et tu vas pouvoir en comparer le langage à celui de cet industriel, et tu me diras, après l'avoir entendu, lequel des deux est le plus original. Ne ris pas, Gazonal, dit Bixiou, qui répéta facétieusement l'intonation de Léon. De quoi croyez-vous Marius occupé ? De coiffer ? Il a conquis, reprit Bixiou, le monopole de la vente des cheveux en gros, comme tel marchand de comestibles qui va nous vendre une terrine d'un écu, s'est attribué celui de la vente des truffes. Il escompte le papier de son commerce, il prête sur gage à ses clientes dans l'embarras, il fait la ronde viagère, il joue à la bourse. Il est actionnaire dans tous les journaux de mode. Enfin, il vend, sous le nom d'un pharmacien, une infâme drogue qui, pour sa part, lui donne 30 000 francs de rente, et qui coûte 100 000 francs d'annonce par an. « Est-ce possible ? » s'écria Gazonal. « Retenez ceci, » dit gravement Bixiou. « À Paris, il n'y a pas de petit commerce. Tout s'y a grandi, depuis la vente des chiffons jusqu'à celle des allumettes. Le limonadier qui, la serviette sous le bras, vous regarde entrer chez lui, peut avoir 50 000 francs de rente. Un garçon de restaurant est électeur éligible, et tel homme que vous prendriez pour un indigent, à le voir passer dans la rue, porte dans son gilet pour 100 000 francs de diamants à montrer et ne les vole pas. »
Fin de la cinquième section.
Sixième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement, LibriVox, fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, sixième section. Les trois inséparables, pour la journée du moins, allaient sous la direction du paysagiste, de manière à heurter un homme d'environ 40 ans, décoré, qui venait du boulevard par la rue Neuve-Vivienne. « Eh bien, dit Léon, à quoi rêves-tu, mon cher Dubourdieu ? À quelque belle composition symbolique ? Mon cher cousin, j'ai le plaisir de vous présenter notre illustre peintre Dubourdieu, non moins célèbre par son talent que par ses convictions humanitaires. Dubourdieu ? Mon cousin Palafox ? Dubourdieu, petit homme à teint pâle, à l'œil bleu mélancolique, salua légèrement Gazonal, qui s'inclina devant l'homme de génie. « Vous avez donc nommé Stidman à la place de... Que veux-tu ? Je n'y étais pas, » répondit le grand paysagiste. « Vous déconsidérerez l'Académie, » reprit le peintre. « Allez choisir un pareil homme. Je ne veux pas en dire du mal, mais il fait du métier. » Où mènera-t-on le premier des arts, celui dont les œuvres sont les plus durables, qui révèle les nations après que le monde a perdu tout d'elles jusqu'à leurs souvenirs, qui consacre les grands hommes? C'est un sacerdoce que la sculpture. Elle résume les idées d'une époque, et vous allez recruter un faiseur de bons hommes et de cheminées, Un ornemaniste? Un des vendeurs du temple? Ah, comme disait Champfort, il faut commencer par avaler une vipère tous les matins pour supporter la vie à Paris. Enfin, l'art nous reste. On ne peut pas nous empêcher de le cultiver. Et puis, mon cher, vous avez une consolation que peu d'artistes possèdent. L'avenir est à vous, dit Bixiou. Quand le monde sera converti à notre doctrine, vous serez à la tête de votre art, car vous y portez des idées que l'on comprendra, lorsqu'elles auront été généralisées. Dans 50 ans d'ici, vous serez pour tout le monde ce que vous n'êtes que pour nous autres, un grand homme. Seulement, il s'agit d'aller jusque-là. Je viens, reprit l'artiste, dont la figure se dilata comme se dilate celle d'un homme de qui l'on flatte le dada, de terminer la figure allégorique de l'harmonie, et si vous voulez la venir voir, vous comprendrez bien que j'ai pu rester 2 ans à la faire. Il y a tout. Au premier coup d'œil qu'on y jette, on devine la destinée du globe. La reine tient le bâton pastoral d'une main, symbole de l'agrandissement des races utiles à l'homme. Elle est coiffée du bonnet de la liberté, ses mamelles sont sextuples à la façon égyptienne, car les Égyptiens avaient pressenti Fourier. Ses pieds reposent sur 2 mains jointes qui embrassent le globe en signe de la fraternité des races humaines. Elle foule des canons détruits pour signifier l'abolition de la guerre, et j'ai tâché de lui faire exprimer la sérénité de l'agriculture triomphante. J'ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme chou frisé, qui, selon notre maître, est l'image de la concorde. Oh, ce n'est pas un des moindres titres de Fourier à la vénération que d'avoir restitué la pensée aux plantes. Il a tout relié dans la création par la signification des choses entre elles, et aussi par leur langage spécial. Dans 100 ans, le monde sera bien plus grand qu'il n'est. Et comment, monsieur, cela se fera-t-il? Dit Gazonal, stupéfait d'entendre parler ainsi un homme sans qu'il fût dans une maison de fous. Par l'étendue de la production. Si l'on veut appliquer le système, il ne sera pas impossible de réagir sur les astres. Et que deviendra donc alors la peinture? Demanda Gazonal. Elle sera plus grande. Et aurons-nous des yeux plus grands? Dit Gazonal en regardant ses 2 amis d'un air significatif. L'homme redeviendra ce qu'il était avant son abâtardissement. Nos hommes de 6 pieds seront alors des nains. Ton tableau, dit Léon, est-il fini? Entièrement fini, reprit Dubourdieu. J'ai tâché de voir Iclar pour qu'il compose une symphonie. Je voudrais qu'en voyant cette composition, on entendît une musique à la Beethoven, qui en développerait les idées afin de les mettre à la portée des intelligences, sous 2 modes. Ah, si le gouvernement voulait me prêter une des salles du Louvre. Mais j'en parlerai, si tu veux, car il ne faut rien négliger pour frapper les esprits. Oh, mes amis préparent des articles, mais j'ai peur qu'ils n'aillent trop loin. Bah, dit Bixiou, ils n'iront pas si loin que l'avenir. Dubourdieu regarda Bixiou de travers et continua son chemin. Mais c'est un fou, dit Gazonal, le course de la lune le guide. Il a de la main, il a du savoir, dit Léon, mais le fourriérisme l'a tué. Tu viens de voir là, cousin, l'un des effets de l'ambition chez les artistes. Trop souvent, à Paris, dans le désir d'arriver plus promptement que par la voie naturelle à cette célébrité qui pour eux est la fortune, les artistes empruntent les ailes de la circonstance. Ils croient se grandir en se faisant les hommes d'une chose, en devenant les souteneurs d'un système, et ils espèrent changer une coterie en public. Tel est républicain, tel autre était saint-simonien, tel est aristocrate, tel catholique, tel juste milieu, tel Moyen-Âge ou allemand par parti pris. Mais si l'opinion ne donne pas le talent, elle le gâte toujours. Témoin le pauvre garçon que vous venez de voir. L'opinion d'un artiste doit être la foi dans les œuvres, et son seul moyen de succès, le travail, quand la nature lui a donné le feu sacré. Sauvons-nous, dit Bixiou, Léon moralise. Et cet homme était de bonne foi? S'écria Gazonal encore stupéfait. De très bonne foi, répliqua Bixiou, d'aussi bonne foi que tout à l'heure le roi des Merlans. Il est fou, dit Gazonal. Et ce n'est pas le seul que les idées de Fourier aient rendu fou, dit Bixiou. Vous ne savez rien de Paris. Demandez-y 100 000 francs pour réaliser l'idée la plus utile au genre humain, pour essayer quelque chose de pareil à la machine à vapeur, vous y mourrez, comme Salomon de Caux à Bicêtre. Mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se fait tuer pour cela. soi et sa fortune. Eh bien, ici, il en est des systèmes comme des choses. Les journaux impossibles y ont dévoré des millions depuis 15 ans. Ce qui rendait votre procès si difficile à gagner, c'est que vous avez raison, et qu'il y a selon vous des raisons secrètes pour le préfet. Conçois-tu qu'une fois qu'il a compris le pari moral, un homme d'esprit puisse vivre ailleurs ? Dit Léon à son cousin. Si nous menions Gazonal chez la mère Fontaine, dit Bixiou qui fit signe à un cocher de citadine d'avancer, ce sera passer du sévère au fantastique. Cocher, vieille rue du Temple. Et tous trois, ils le roulèrent dans la direction du Marais. Fin de la 6e section.
At Kroger Pharmacy, care is what's most convenient for you. Care is being here when you need us. We're open evenings and weekends. Care is helping you save more. Most insurance plans and discount cards are accepted at your local Kroger Pharmacy. Care is saving you time by managing your prescriptions online. You can request refills, check order status, and more. Care is convenience that works for everyone. Kroger Health, a world of care is in store. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. For coverage, consult your health insurance company. Visit the pharmacy or our site for details.